Nous allons lire dans le livre de Luc la parabole du riche déraisonnable. Quelqu'un de la foule lui dit : Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il lui répondit : Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ? Puis il leur dit : Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant : Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire : Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit : Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus, au cœur de la foule, est interpellé par un homme qui souhaite son intervention pour régler le problème d'héritage qu'il a avec son frère. Il voudrait entrer en possession de ce qui doit lui revenir. Il a probablement quelques soucis avec son frère pour la succession. À cette époque, il était normal de s'adresser au rabbi pour régler ce genre de problème. Il est donc normal que cet homme s'adresse à Jésus pour régler le conflit avec son frère à propos du partage de leur héritage. Il semble toutefois que cet homme ne se soit pas adressé à la bonne personne, car Jésus refuse tout simplement de s'en occuper, déclarant : Je ne suis ni juge ni arbitre. Jésus n'est pas comme ses coreligionnaires et refuse de s'occuper de tâches matérielles telle que celle qui lui est soumise. Lui, il est parmi les hommes uniquement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais il profite de cette occasion pour faire comprendre, à l'aide d'une parabole, que l'important n'est pas l'abondance, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et il raconte donc l'histoire que nous venons de lire. Celle-ci est racontée non seulement à cet homme, mais aussi à la foule présente, et si elle est parvenue jusqu'à nous, nous pouvons bien penser que c'est parce qu'elle est à entendre de nos jours également pour en tirer quelques leçons. Visiblement, l'homme dont il est question dans cette parabole est seul et se parle à lui-même. Il est riche et constate sans aucun doute, avec joie, que sa terre lui a rapporté bien plus qu'il n'en espérait. Mais il est inquiet aussi, car il n'a pas la place nécessaire pour rentrer ses importantes récoltes en lieu sûr et à l'abri des intempéries. J'ai envie de dire que cet homme est raisonnable, contrairement au titre employé pour ces quelques versets. Il semble, a priori, plein de bon sens, prudent. Il a bien travaillé et il est récompensé par de bonnes récoltes. En homme avisé et prévoyant, il projette donc de détruire ses granges devenues trop petites pour en construire de plus grandes afin de protéger son bien. Quand on sait la difficulté et la pénibilité du travail de la terre, il n'y a pas à être surpris par un tel comportement. À cette époque, la charrue, si elle était déjà inventée, n'avait vraiment rien à voir avec celle que l'on peut voir de nos jours dans les champs de nos provinces, tractée aujourd'hui par de super tracteurs fonctionnant avec un GPS. Les hommes effectuaient à l'époque de Jésus un dur labeur avec l'aide d'un seul soc, seul outil conduit par les animaux, quand ce n'était pas par les humains. Cet homme qui a tant travaillé est probablement fatigué. Il a besoin d'un repos qui est sans aucun doute mérité et il projette de profiter un peu de la vie en se distrayant et en faisant la fête puisque ses réserves de biens le mettent à l'abri pour de longues années. Il n'est pas dit qu'il va dilapider ce qu'il a gagné. Il me semble, dans son comportement, être un homme assez sage. Vous trouvez son attitude anormale ? Moi non. Que fait-on après s'être épuisé une journée seulement au travail ? À notre retour au domicile, bien souvent, nous nous accordons quelques instants de détente pour souffler. Et au terme d'une année de travail, nous pensons à nous changer les idées en partant en vacances lorsqu'on le peut. Alors oui, je trouve le titre de ce texte excessif. Et cet homme ne me semble pas, au premier abord, déraisonnable ou insensé, comme mentionné dans d'autres versions de la Bible, en voulant enfin, tout simplement, profiter un peu de la vie. Mais, car il y a un mais, Jésus ne voit pas en cet homme le même homme que je voyais il y a quelques instants. Déraisonnable ou insensé, pourquoi Jésus le nomme-t-il ainsi ? Voilà la question qu'il nous faut nous poser. Parce que cet homme va mourir cette nuit même. Eh bien là, ma surprise est grande car je n'y avais pas pensé. Et notre homme non plus. En effet, il n'est pas impossible, semblant être en bonne santé, mourir subitement d'un malaise cardiaque avec un infarctus ou bien un accident vasculaire cérébral massif, par exemple, et si rapidement, oui, ça peut arriver. Effectivement, Jésus, par ces quelques mots, rappelle que ce n'est pas parce qu'il a acquis une certaine abondance que sa vie est garantie, qu'il est à l'abri et que ses biens ne lui profiteront pas quand il sera mort. S'il est nommé déraisonnable, c'est bien parce qu'il n'a pas prévu de mourir dans la nuit même qui suit cette récolte. Ses biens acquis ne lui serviront donc à rien. Et qu'en a-t-il fait ? Que projette-t-il d'en faire ? Était-il utile d'avoir une telle abondance pour enfin se réjouir ? N'était-ce pas possible précédemment, après le travail, en dehors de se reposer, de se distraire? Que fait-il de sa vie? Alors, posons-nous cette même question. Que faisons-nous de notre vie? Car notre vie aussi peut être courte. Visiblement, l'homme de cette parabole est seul, isolé, personne avec qui communiquer. Il ne dialogue qu'avec lui-même. Au moins, il ne risque pas d'être contrarié. Il pense à son bien qu'il lui faut protéger, à se faire plaisir et se reposer, mais quoi d'autre? Il a tout pour être heureux. Enfin, c'est ce qu'il croit, car il va perdre la vie. Et voilà pourquoi notre homme est déraisonnable. En effet, Dieu lui reprend sa vie et du coup, il perd tout. Mort, il ne profitera de rien, ni de la joie de vivre, ni de la contemplation de ses biens amassés, car il n'a pas été prévoyant en ne songeant pas à cette éventualité. Seule son avarice l'a guidé. Cet homme n'a confiance qu'en lui-même et non en Dieu. Il a oublié que tout dans sa vie ne repose pas sur ses seules forces. En protégeant sa moisson, il n'a pas pensé à en faire profiter les autres, en partageant par exemple, en offrant. Avare, il s'est replié sur lui-même, isolé. Ouvert sur le monde, il n'est pas, mais certainement, il est enfermé dans sa solitude. En confiant sa vie à Dieu, cet homme solitaire aurait pu vivre différemment. Il aurait pu, pour le moins, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu amasser. Car si ses greniers sont pleins, c'est tout de même avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas le fruit unique de son labeur. Cet imprudent paiera le prix le plus élevé par la perte de sa vie. La richesse est effectivement une bénédiction quand elle est mise au service de la vie, qu'elle circule, qu'elle est donnée, reçue, partagée. C'est un moyen de permettre la vie. Ce n'est pas en accumulant que le bonheur se profile. Cet homme n'a pas compris le sens de cette richesse. Il a un cœur sec, sans reconnaissance. Il n'a qu'une pensée, protéger son bien. Mais c'est justement là qu'est son problème, puisqu'il doit trouver une solution pour l'abriter. Alors, pourquoi en avoir tant? Et à quoi cela lui sert-il, puisque c'est la source de ses tourments? En effet, aux yeux de Dieu, la richesse est celle du cœur lorsqu'elle est partagée, dispenser aux autres avec élan et générosité. Savoir donner avec joie et spontanéité procure la vraie vie, celle donnée par Dieu. Qu'avec bonté, nos dons servent à offrir une vie meilleure à nos prochains, à faire grandir notre Église. Et n'oublions pas de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et nous accorde de faire chaque jour. C'est lui, le seul Seigneur, maître de nos richesses et de nos vies. Amen.